Voici la seconde et dernière partie de la conférence de Mgr Pierre de Berger, recteur émérite de l'Institut catholique de Toulouse. Mgr Pierre de Berger présentait son ouvrage à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte le 12 avril 2014, ouvrage publié aux éditions Bayard. Voici la seconde et dernière partie de cette conférence de Mgr Pierre de Berger, où à partir d'une étude avancée des textes, il présente les réponses qu'apporte la Bible à différents sujets de débat et controverses contemporains, les différences sexuelles, la liberté, l'exercice du pouvoir, la domination de l'argent, la fraternité universelle. Mgr Pierre de Berger.
Et là, je me laisse prendre au piège de la toute-puissance, je me laisse prendre au piège du serpent, voilà, qui fait miroiter ce Dieu tout-puissant, ce Dieu mesquin, ce Dieu jaloux de son pouvoir. Je me laisse prendre aussi au jeu du serpent qui va mettre le doigt sur ce qui me manque, et c'est ce qui me manque qui deviendra le point fondamental de ma vie, parce que c'est ça qui va du coup occulter tout le reste, et je voudrais être comme Dieu. Il me semble que c'est là que se situe le dilemme de la vie, le dilemme de l'existence humaine. Alors c'est vrai, quand on regarde les récits de la Bible, on va voir que c'est à la lumière de ce dilemme, je me reconnais image et ressemblance de Dieu, je consens à mon statut de créature, je consens à ma finitude, d'une certaine manière je consens à une certaine pauvreté, et je loue le Seigneur pour tout ce qu'il me donne, et j'apprends à vivre avec tout ce qu'il m'est donné, voilà, en faisant en sorte que cela serve le bien de chacun et de tous, ou bien je choisis une autre voie, qui est celle de la toute-puissance, qui est celle de la toute-puissance, qui est celle de la convoitise, et je me laisse prendre au piège d'eux, et à ce moment-là, en m'éloignant de Dieu, le risque, bien sûr, est aussi que je m'éloigne de mon frère, et que je construise ma vie à partir de fausses sécurités ou d'illusions, mais le plus souvent quand même dans le mépris de Dieu et le mépris du frère. Un exemple systématique, je crois assez clair de cela, c'est de ce dilemme, ça va être l'argent, l'utilisation de l'argent. Que nous dit la Bible ? Je prends un exemple, je ne vais pas le répéter après du pouvoir. Quand on regarde les plus anciens récits de la Bible, d'une certaine manière, on voit bien que dans la Bible, les richesses matérielles, elles ne sont pas présentées de manière négative. Ce sont des instruments qui nous ont été donnés, que l'on peut avoir gagné aussi, et qui contribuent à notre bonheur. Il n'y a pas de vision négative de l'argent. L'argent, en tant que tel, il sert au bonheur. Il contribue au bonheur de chacun et de tous. Or, Dieu veut que nous soyons heureux. Et les biens matériels participent de cela. Vous lirez, quand on parle d'Abraham, quand on parle de Salomon, quand on parle de Job, on dit même qu'ils étaient très riches, qu'ils avaient de grandes fortunes. Bon. Et puis, il va y avoir un autre temps, une espèce d'évolution dans la réflexion. Ça va être de dire, oui, les richesses matérielles, ce sont des instruments qui contribuent au bonheur, mais justement, ce qui compte, c'est l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait. Et on va voir que là aussi, cette utilisation, elle peut être contraire au dessein de Dieu. Vous connaissez Amos, qui fustige justement, qui fustige les puissants, qui avec de l'argent, eh bien, achètent tout. Ils achètent des pauvres, ils achètent des juges, on falsifie les balances, tout ce que vous voulez. Donc on va bien se rendre compte que l'argent, certes c'est un instrument, mais le cœur de l'être humain face justement à l'argent, peut-être ambivalent, selon que j'accepte d'utiliser les richesses de manière, je dirais, conforme au dessein de Dieu, ou selon que je les utilise de manière un peu déloyale, à l'encontre des petits, des pauvres. Et on va arriver, je vais vous lire ce passage, on va arriver avec, bon, il y aurait beaucoup de passages à lire, hein, mais on va arriver notamment avec le Siracide, un constat, D'abord, Coëlède. Coëlède, il n'est pas dupe. Il dit, de toute façon, celui qui aime l'argent, il n'en aura jamais assez. Il le dit très clairement. Celui qui aime l'argent, il n'en aura jamais assez. Et puis, finalement, il dénonce l'illusion que l'on pourrait avoir en se disant, j'ai de l'argent, je serai tranquille. Il dit, finalement, déjà en son temps, hein, il dit, peut-être, il peut arriver une faillite, des voleurs, on peut mourir subitement. L'argent, on ne l'emportera pas avec soi. Et donc, déjà chez les livres de sagesse, on va retrouver cette idée que ce qui compte le plus, c'est la santé. Voilà, ces choses que nous nous disons sont déjà. Bon. La santé, l'honnêteté, une bonne réputation, ça vaut mieux qu'une richesse, bon, mal acquise. Et puis la sagesse. Alors, ça, c'est le trésor. Le plus important, c'est la sagesse. Au regard de laquelle, d'ailleurs, l'argent est comme de la boue, nous dit le livre de la sagesse. Mais la sagesse, elle ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. Et donc, dans ce contexte, Siracide va même un peu plus loin. Il finit par dire, finalement, l'argent, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Pourquoi c'est une épreuve? Parce que l'argent nous permet d'accéder. On peut faire beaucoup de choses avec de l'argent. On peut détourner des lois. Voilà, on peut détourner des lois. On peut acheter tout ce que l'on veut. Et la question du Siracide, ça va être de dire attention. Voilà. L'important, c'est est-ce que, possédant des richesses, est-ce que je vais être capable de résister aux pièges, voilà, auxquels ces richesses peuvent me conduire? Et là, il a un texte, je vais vous le lire, qui est un texte. Donc, toujours pareil, c'est le cœur de l'homme, c'est toujours le cœur de l'homme. Voilà. Selon que je résiste à l'attrait, à l'appât, voilà, de ce que l'argent peut me faire faire, en consentant, comme on l'a dit avant, à la finitude, en acceptant de vivre une vie loyale, que je me laisse prendre au piège d'une toute-puissance, d'une reconnaissance, de... Voilà. Je vous lis. Siracide, c'est 2 ou 3 siècles avant notre ère. Celui qui aime l'or ne saurait rester juste. Alors, ce qui est important, c'est qu'il s'agit de celui qui aime. De la même manière que dans la première lettre à Timothée, Paul écrira, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Ici, c'est celui qui aime l'or ne saurait rester juste, et celui qui poursuit le gain se laissera fourvoyer par lui. Beaucoup ont été livrés à la ruine à cause de l'or, et leur perte est arrivée sur eux. C'est un piège, c'est un piège. Pour ceux qui en sont entichés, et tous les insensés s'y laissent attraper. Heureux l'homme riche qu'on trouve irréprochable et qui n'a pas couru après l'or. Qui est-il que nous le félicitions? Car il s'est comporté de façon irréprochable parmi son peuple. Qui a subi cette épreuve? Voyez? Piège, épreuve. Qui a subi cette épreuve et s'en est bien tiré? Il a bien lieu d'en être fier, qui a pu commettre une transgression. L'argent, tout s'achète. Qui a pu commettre une transgression avec de l'argent? Et ne l'a pas commise, faire le mal et ne l'a pas fait. Il sera alors confirmé dans sa prospérité et l'assemblée énumérera ses bienfaits. Je trouve très actuel, parce que c'est de toujours cette réflexion, voilà, du Siracide sur le fait, c'est pas l'argent qui est mauvais. C'est certes l'utilisation que l'on en fait, mais c'est la manière dont on va se situer face. Et là, il me semble qu'on retrouve l'enseignement de Jésus, que je vais vous résumer en quelques mots. Si on regarde l'enseignement de Jésus, d'abord, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il n'y a pas de mépris de l'argent dans les évangiles. Il n'y a pas de mépris de l'argent. On nous dit que Jésus, que des femmes accompagnent les disciples et Jésus et les aident de leurs biens matériels. On peut penser d'ailleurs que Jésus avait des amis qui étaient assez fortunés. En même temps, on connaît bien sûr la fameuse, on va l'évoquer, Judas, la bourse que tient Judas. Mais au-delà de cela, je pense aussi à toutes les paraboles que Jésus raconte et où il est question d'argent. Le bon samaritain, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est qu'une fois qu'il a ramené le malheureux qu'il a trouvé au bord de la route, lorsqu'il l'amène chez l'aubergiste, il paye l'aubergiste et il lui donne de l'argent et il lui dit « s'il faut davantage, eh bien, je reviendrai, je te donnerai ». Donc finalement, l'argent, il participe aussi de cette attention au prochain. Voilà. En se faisant le prochain de celui qui est au bord de la route ou de celui qui est au bord de notre propre route, l'argent servira aussi, voilà, à aider et à servir. Je pense en même temps à une autre parabole aussi où Jésus parle de ce serviteur qui reçoit une pièce d'argent et qui ne la fait pas fructifier. Alors, bon, c'est pas pour autant que Jésus prône la fructification à outrance des biens, mais ça, on en parlera peut-être après. Je dis cela parce que ce matin, on m'a fait voir un article du, je crois que c'est le Nouvel Observateur, où deux financiers de l'ESSEC à Paris contestent le pape François et contestent les déclarations du pape François par rapport à l'argent. Et ils font référence à un auteur américain qui, il y a quelques années, justement à partir de cette parabole-là, présentait Jésus comme un libéral. Voilà, un libéral du point de vue économique. Bon, mais ça, c'est autre chose. On fait voir ça. Non, Jésus, là, il dit, on va y revenir. Oui, l'argent peut le faire fructifier, bon, c'est un point. Mais c'est la parabole qui compte, c'est le sens de la parabole. Autre point, Jésus évoque aussi dans une autre parabole l'argent. Vous savez, cette femme qui a une petite pièce de monnaie qu'elle laisse tomber, qu'elle perd, c'est la seule pièce qu'elle a dans sa maison, et elle met sans dessus-dessous sa maison jusqu'à ce qu'elle la trouve, voilà. Et une fois qu'elle l'a trouvée, elle réunit ses amis pour leur dire, voilà, elle fait un peu la fête. Avec... Et Jésus dit, Jésus compare le royaume de Dieu. Si l'argent avait été aussi mauvais, et si Jésus n'avait pas perçu l'argent comme une réalité essentielle de la vie humaine, je crois qu'il n'aurait pas évoqué. Voilà. Mais il le fait. Donc pour lui, voilà, l'argent fait partie de la vie quotidienne. Il connaît, je dirais aussi, le poids de vie qui peut être attaché à l'argent. Je pense à une autre parabole, c'est l'obole de la veuve. Vous avez ceux qui sont, c'est au temple, sur l'esplanade du temple, vous avez ceux qui donnent, ils donnent sûrement de manière très sonnante et trébuchante, et elle donne toute petite pièce. Et Jésus dit, mais attention, elle a donné davantage, parce que ce qu'elle a donné, c'est qu'elle a donné de ce dont elle avait besoin pour vivre. Ils ont donné de leur surplus, si je puis dire. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de mépris chez Jésus de l'argent. Il n'y a pas, comme on l'entend parfois non plus, de mépris par rapport aux riches. Il n'y a pas de mépris, il y a plutôt des plaintes qu'il y a chez Jésus par rapport à ceux qui sont riches. Alors, on peut entendre cela à la lumière, c'est vrai, de mise en garde. Il y a dans l'Évangile, c'est vrai, des mises en garde par rapport à l'argent. Jésus reconnaît l'importance de l'argent, mais en même temps, il nous met en garde. Et c'est surtout dans l'Évangile de Luc que l'on trouve ces mises en garde. Alors pourquoi il nous met en garde? Alors il dit de l'argent qu'il est trompeur. Moi, j'aurais tendance à penser, oui, qu'il est, mais dès lors que on accepte de se laisser tromper, c'est nous-mêmes. L'argent en soi, sauf à être mal, de l'argent corrompu ou de l'argent sale, l'argent en lui-même, bon, voilà. Il y a deux paraboles qui me semblent être importantes. La première, c'est celle de cet homme qui avait eu de grandes récoltes, voilà, qui la nuit se demandait ce qu'il pourrait en faire, et puis qui finalement se disait, je vais me faire construire de grands greniers, Je pourrais comme cela engranger tout ce que j'ai récolté et je pourrais vivre et faire bon banc cependant de longues années. Et la suite du texte, vous la connaissez, insensé. Cet homme ne savait pas que cette nuit même, voilà, sa vie lui serait redemandée. Et Jésus conclut, voilà ce qui arrive à celui qui accumule pour soi, pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Très intéressant. Accumuler pour soi ou s'enrichir auprès de Dieu. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une chose relativement simple. C'est pas, voilà, c'est la fragilité aussi de l'être humain que de mettre sa sécurité dans de l'argent au point d'occulter cette vérité toute simple que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que notre avenir est garanti. Voilà. Voilà, notre avenir n'est pas garanti. Mais on oublie l'essentiel. La deuxième parabole, elle est toujours chez Luc, par rapport à l'argent, c'est celle de Lazare, le pauvre Lazare et le riche. Jésus ne dit pas que c'est un mauvais riche, c'était un riche qui festoyait, et à la porte de sa maison, il y avait un pauvre, que manifestement il ne voyait pas. Voilà, et on peut penser que déjà, là, il y a cette idée que l'argent, oui, crée un mur. On finit par ne plus trop se rendre compte d'eux. Mais surtout, l'argent, il nous rend sourds à toute autre parole. Toute autre parole. Et cela apparaît dans la suite de la parabole où, vous connaissez l'histoire, bon, il se retrouve, on va dire, à une mœur, et puis il y en a un qui est avec Dieu, et l'autre, il est dans les affres, voilà, on va dire, de l'enfer. Et évidemment, il interpelle Abraham en disant « Abraham, écoute, va avertir mes frères, va leur dire. » Et puis la réponse d'Abraham, elle est redoutable. Ils ont la loi et les prophètes. Autrement dit, ils savent bien ce qui est dans la loi et ce qui, chez les prophètes, ce qui est dit par rapport à l'argent, ce qui est dit par rapport à l'utilisation de l'argent, ce qui est dit par rapport à l'exigence de justice, de respect du droit. Mais il ne l'écoute pas. Et la parabole continue, ou Jésus continue, même si quelqu'un ressuscitait des morts, il ne l'entendrait pas. Donc là aussi, autre mise en garde de Jésus par rapport à l'argent, qui lorsqu'il prend dans la place, dans le cœur de l'homme, une place démesurée, c'est ça qui est en jeu. C'est lorsqu'il voilà, il prend une place démesurée. Mais finalement, il finit par devenir certes une idole, c'est vrai, mais surtout on devient sourd à toute autre parole, on devient sourd à toute autre remise en cause, aussi essentielle soit-elle. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Luc, on a cette terrible un peu mise en garde de Jésus, que vous connaissez sans doute. Hein. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, ou bien il haïra un, et il servira l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Alors, on rejoint, je crois, là, l'épreuve. Vous savez, l'épreuve du siracide, elle est dans ce qu'on vient de se dire. Voilà. C'est que l'argent me donne l'illusion d'une sécurité. L'argent me donne l'illusion que oui, je vais m'assurer une reconnaissance sociale, ou ceci ou cela, mais non. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'argent. Ce qui ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Mais on est là dans le cadre d'un service. L'argent n'est plus un instrument à notre service. Il devient voilà, une idole. Et c'est pour cela que Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et la grande question de Jésus par rapport à l'argent, ce n'est pas une question d'éthique. Quand Jésus dit, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent, autrement dit, vous ne pouvez pas aimer Dieu et vous ne pouvez pas aimer l'argent. Vous ne pouvez pas aimer l'un et l'autre. Mais je pense que la question que pose Jésus, c'est celle de la foi. Pour moi, la question de la relation à l'argent, vous pourrez réagir, hein, pour moi, la relation à l'argent, elle relève à un certain niveau de la foi. En qui mets-tu ta foi ? Est-ce que tu mets ta foi en Dieu ? Voilà. Au point, comme on l'a vu, c'est toute la question de la Bible. Voilà. Au point de le reconnaître, lui, comme étant l'essentiel de ta vie, au point de consentir aussi, jusqu'à consentir à la finitude qui est la sienne, la tienne, à la pauvreté qui est la tienne, peut-être même à l'insécurité un peu qui pourrait être la tienne, avec ce que cela exige comme abandon, comme désappropriation, comme refus d'avoir la maîtrise de tout. Et auquel cas, c'est vrai, les richesses seront utilisées comme des instruments au service du bien de chacun et de tous, ou bien mets-tu ta foi en l'argent. Et si tu considères à ce moment-là que, de fait, il est ta sécurité, le risque, il est qu'au lieu d'entrer dans une dynamique de dépossession et de désappropriation, comme l'argent appelant l'argent, et comme Nicolette, on ne se rassasie jamais parce qu'on a toujours des besoins ou de ceci ou de cela, le risque, il est d'entrer dans une attitude plutôt d'appropriation, avec ce que cela comporte comme sentiment de se considérer un peu comme maître de son existence, comme maître de ses biens, comme maître de tout. Voilà. Donc, un peu moindre qu'un dieu, comme Dieu. Il y a un petit peu de cela quand même. Et pour Jésus, en tous les cas, pour celui qui veut utiliser l'argent comme un instrument et un instrument au service du bien de chacun et de tous, eh bien, c'est ce qu'il dit, il faut d'une certaine manière investir auprès de Dieu, s'enrichir auprès de Dieu. C'est l'opposition qu'il fait entre, voilà ce qui arrive à celui qui veut accumuler pour lui-même, au lieu de s'enrichir pour Dieu. Il y a une espèce de dilemme qui fait d'ailleurs que lorsqu'on présentera les communautés primitives, qu'est-ce qu'on dira de la communauté primitive? Certes qu'on mettait en commun tous les biens, mais ce n'est pas par mépris des richesses. C'est pas par mépris des richesses. Il n'y a jamais eu de mépris de l'argent. Il n'y en a pas dans l'Évangile, il n'y en a pas dans l'Ancien Testament, il n'y en a pas dans la vie des communautés primitives. Ce n'est pas par mépris des richesses qu'on met les biens en commun, c'est pour qu'il n'y ait pas de pauvres. Totalement différent. La communauté chrétienne est une communauté qui va se caractériser par le partage et par le don. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, Jésus, d'ailleurs, dans l'Évangile, et avant lui-même Jean-Baptiste, ils font du don, du partage, un peu comme l'antidote, si je puis dire, du danger que peut représenter l'argent. Voilà. Pour celui qui veut apprendre à utiliser les richesses et l'argent comme des instruments au service du bien de chacun et de tous, il faut donner. Et il faut donner généreusement, toujours pareil, parce qu'en donnant, on rétablit la justice. Parce qu'en donnant, on rétablit la justice. Vous savez qu'en hébreu, c'est le même mot qui veut dire justice et aumône. En donnant, je rétablis la justice. Donnant, je rétablis la justice. Ce que je viens de dire de l'argent, voilà, avec le dilemme, c'est la même chose par rapport au pouvoir. On a vu, il y a une vocation au pouvoir qui est inscrite au cœur de l'être humain, de tout être humain. Après, la grande question, c'est comment j'utilise la part de pouvoir qui est la mienne, ou comment plus le pouvoir sera important, comment je vais utiliser ce pouvoir. Est-ce que je vais l'utiliser comme un lieu de toute puissance, ou est-ce que je vais l'utiliser, au contraire, comme un lieu de service? C'est le dilemme qui traverse la Bible. Voilà. C'est pour cela que je vais vous donner un exemple. Le roi. Le premier roi, grand roi d'Israël, Salomon. Après David, il y a Salomon. Voilà. Eh bien, quand c'est dans le Deutéronome au chapitre 17, quelle va être la grande intuition aussi de la Bible? C'est qu'il n'y a de pouvoir que par Dieu et qu'en Dieu. Autrement dit, personne ne peut prétendre avoir le pouvoir. Tout pouvoir est délégué. Tout pouvoir est reçu. Heureusement, c'est la perception de la Bible. Mais quand donc on évoquera Salomon, On évoquera deux choses. L'onction. L'onction dans la Bible, elle fonctionne un peu comme une concession de pouvoir. Elle est là, loin, en oignant, c'est-à-dire David ou Salomon, on indique certes que le roi est roi, choisi par Dieu, mais que le pouvoir qui est le sien, il l'a reçu. Il ne lui appartient pas. Et qu'il devra donc l'exercer, voilà, dans la fidélité au dessein de Dieu, parce qu'il incarne plus que tout autre la justice de Dieu. C'est ça la grandeur du pouvoir. Il y a une grandeur pour celui qui exerce le pouvoir suprême. Il y a une grandeur pour toute personne qui l'exerce. Donc, dès le début, cette insistance majeure sur voilà, pouvoir vécu comme service, service des plus petits, des plus pauvres, et surtout sur le fait que le roi, il n'est pas au-dessus de la loi. Il est le garant de la loi. Je vous lis simplement, alors derrière ce récit, on évoque en fait, voilà, on conteste un peu Salomon, c'est le chapitre 17. Tout ce que vous allez entendre là, c'est la contestation de ce qu'a fait Salomon. Mais qu'il n'aille pas multiplier ses chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour accroître sa cavalerie, car le Seigneur vous a dit, vous ne retournerez jamais par ce chemin. Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, vous savez que Salomon avait quantité de concubines, hein, je ne sais plus si c'est 700 femmes et 400 concubines, enfin, un chiffre bon là. Qu'il ne multiplie pas le nombre de ses femmes, ce qui pourrait égarer son cœur. La suite. Qu'il ne multiplie pas à l'excès son argent et son or. Là aussi, l'argent et l'or bon, sont importants. On ne nie pas. On dit simplement qu'il ne le multiplie pas à l'excès. Parce qu'on sait bien que dès lors que certaines limites vont être franchies, le risque, vous le connaissez. La suite est encore plus importante. Lorsqu'il montera sur le trône royal, il devra écrire sur un rouleau, pour son usage, une copie de cette loi sous la dictée des prêtres lévites. Elle ne le quittera pas. Il la lira tous les jours de sa vie pour apprendre à craindre le Seigneur son Dieu en gardant toutes les paroles de cette loi ainsi que ses règles pour les mettre en pratique. Il évitera ainsi de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Ouais, la figure du roi, garant de la loi, qui doit être le premier à observer, qui doit être le premier à faire en sorte qu'elle soit respectée, parce qu'il est le protecteur attitré de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger. Il évitera de s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Celui qui a un pouvoir n'est pas au-dessus. On a là l'idéal de la royauté biblique. Bon, la suite, vous la connaissez. Vous savez bien que très peu de rois, aucun, d'une certaine manière, peut-être David, bon, encore, même pas. Mais aucun, véritablement, ne respectera cela. Il y a un idéal, là, d'un pouvoir qui n'est pas négatif. Bien au contraire, c'est un pouvoir délégué, qui est au service d'eux, qui fait que celui qui le détient ne doit pas s'enorgueillir au-dessus de ses frères. Il doit être le premier à observer la loi et à faire en sorte qu'elle le soit. Bon. Cela ne se fera pas. Tout est dit. Pourquoi ? Parce que là aussi, le péché, le désir de toute puissance, qui d'une certaine manière est au cœur de tout être humain, voilà. Fait qu'aucun, d'une certaine manière, aucun roi ne... résistera à l'épreuve du pouvoir, là aussi, comme l'argent. Alors évidemment, on va voir l'enseignement de Jésus, mais là vous connaissez, peut-être deux choses à retenir de l'enseignement de Jésus par rapport au pouvoir. D'abord, Jésus reconnaît la place pour un pouvoir politique. C'est important. On est dans une théocratie, il est interrogé par des pharisiens et des hérodiens qui veulent lui tendre un piège. Vous connaissez cet épisode, c'est à propos du tribut à César. Si Jésus répond qu'il faut payer, on va dire, ben à ce moment-là, il ne reconnaît pas que cette terre est une terre que Dieu a donnée à son peuple, puisqu'il reconnaît l'occupant romain. S'il dit qu'il ne faut pas payer le tribut à César, eh bien, on dira que c'est un révolutionnaire. Et Jésus s'en sort par un dilemme, et par une distinction plutôt, qui, je crois, fera jurisprudence. Rendez à César ce qui est à César. Jésus reconnaît l'autorité du pouvoir politique. Il y a une autonomie du pouvoir politique, à condition que le pouvoir politique ne revendique pas pour lui ce qui appartient à Dieu. Pas de sacralisation, rendez à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, d'une certaine manière, il reconnaît tout en indiquant bien que le pouvoir des hommes, voilà, est un pouvoir qui se trouve aussi limité. Et dont il faut reconnaître qu'il est limité. On évoquera le vendredi prochain, lors du Vendredi Saint, le récit de Pilate, avec Jésus qui est devant Pilate, et qui essaye de dire à Pilate que le pouvoir qui est le sien, il ne lui appartient pas, mais qu'il l'a reçu. Et Pilate se dérobera face à cela. Bon. Peut-être plus important encore, Jésus ne se contentera pas de cela, lorsqu'il enseignera aux disciples, et ça c'est important pour nous, lorsqu'il enseignera aux disciples quels doivent être les rapports entre eux. Il aura un enseignement que vous connaissez, qui est fondamental, qui à mon sens demeure, puisqu'il situe là aussi ce qui va caractériser le témoignage quand même des chrétiens. C'est au chapitre 10 de l'évangile de Marc, si je prends ce passage-là. Voilà ce que l'on peut lire. Verset 42. « Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles. » C'est négatif. On est là devant un exercice du pouvoir qui semble être alors le fait un peu de tous et que les apôtres connaissent. Le pouvoir, lorsqu'il est exercé, il s'exerce sur, contre, il n'est plus au service. Et là, tous les verbes grecs sont des verbes négatifs. Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. C'est important. Il ne doit. C'est un commandement. C'est un commandement. Celui qui voudra être grand, il se fera votre serviteur. Celui qui voudra être premier, il se fera l'esclave de tous. Jésus ne nie pas le désir de pouvoir qui est inscrit au cœur de l'être humain. Il ne nie pas qu'au sein des disciples et au sein des chrétiens, certains puissent avoir le désir d'être grand ou d'être premier. Il n'y a pas de négation de ce, il y a pas de vision négative. Celui qui voudra être grand. Simplement, que fait Jésus? Il réoriente ce désir vers le service. Et même beaucoup plus que le service, il va jusqu'au don de sa vie. Puisque le tout se termine par... Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui voudra être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Donc Jésus fait de l'exemple même du Fils de l'homme, oui, de son exemple, au fond, puisque c'est ce qu'il vivra, le modèle, voilà, de l'exercice véritable du pouvoir. Alors, il s'agit bien ici des pouvoirs au sein de l'Église, ce qui n'est pas sans une certaine actualité. Ça veut dire que pour le Christ, il est évident que le témoignage que les chrétiens auront à donner de ce monde nouveau qu'il a, là, qui est né de sa mort et de sa résurrection. Ce témoignage passera aussi, peut-être surtout, par la manière dont ils bâtissent leur rapport de pouvoir. dont ils construisent leur rapport de pouvoir. Et on peut l'entendre. Un exercice de la responsabilité ou du pouvoir au sein de la communauté chrétienne, au sein des disciples du Christ, qui ne serait pas cohérent avec le message de fraternité, de responsabilité, avec la reconnaissance de la dignité de chacun qui est au cœur même de l'Évangile. Vous voyez, ce message, ce témoignage ou cette pratique qui ne serait pas cohérente avec serait contre-productive. C'est pour ça que l'exercice du pouvoir au sein de la communauté chrétienne, au sein des communautés chrétiennes, mais on pourrait dire aussi au sein des associations, au sein des différents lieux où nous pouvons nous trouver, il est fondamental. Il est fondamental. Parce que c'est là que se joue la cohérence de ce que nous annonçons et de ce que nous disons avec ce que nous vivons. Et c'est vrai que le pouvoir, là aussi, est un lieu essentiel. Alors, un dernier texte, pour ne pas vous ennuyer, c'est dans la lettre aux Romains, un autre enseignement sur le pouvoir, c'est dans la lettre aux Romains, c'est au chapitre 13. Là, on est dans un autre contexte, c'est après la mort, bien sûr, et la résurrection du Christ, donc la conversion de Paul. Paul écrit cette lettre vers l'an 56. Et là, c'est une question que se posent les disciples ou les chrétiens de Rome. On est dans l'attente de la venue du Seigneur, qui est notre Seigneur. Le mot Seigneur, c'est le titre qu'on donnait à l'empereur de Rome, hein, le Seigneur, le Kurios. Il est notre Seigneur. Nous sommes dans l'attente de sa venue. Nous savons que citoyens, certes, dans ce monde, nous sommes aussi citoyens du ciel. C'est ça, voilà, qui se joue là. Faut-il donc obéir à des autorités païennes? Faut-il obéir à des autorités païennes? Et là, on a aussi une autre manière de penser le pouvoir. Et vous allez voir que la réponse de Paul, évidemment, elle est dans le droit fil de se rendre à César ce qui est à César. Que fait Paul? Je vous lis ce passage. Que chacun se soumette aux autorités en charge. Autrement, il faut se soumettre. Et Paul va plus loin. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Alors bon, là on est dans la mentalité un peu biblique, un peu grecque aussi. C'est quelque part, il n'y a de pouvoir qu'en Dieu. Que par Dieu. Voilà. Si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité, fais le bien, et tu en recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Autrement dit, ceux qui exercent un pouvoir, et là en l'occurrence il s'agit aussi de la magistrature, un instrument de Dieu pour conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive, elle est un instrument de Dieu pour faire justice. Toujours donc, on voit bien un exercice du pouvoir, un exercice de la responsabilité qui est au service du bien, au service de la justice. Aussi doit-on se soumettre, non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de confiance. N'est-ce pas pour cela que vous payez les impôts, car il s'agit de fonctionnaires qui s'appliquent de par Dieu à cet office. Rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Là aussi, autre enseignement. Le pouvoir, même lorsqu'il est exercé par des païens, dans l'an 56, mais à condition, bien sûr, qu'il soit exercé comme un pouvoir au service du bien et au service de la justice, il doit être respecté. Et on doit s'y soumettre, en conscience, non par crainte, en conscience, parce qu'on reconnaît l'importance qui est le sien, je dis bien, dès lors qu'il est instrument qui conduit au bien, et qu'il est instrument au service de la justice. Alors évidemment, le texte ici ne dit pas. Mais lorsque le pouvoir ne conduit pas au bien, lorsque le pouvoir n'est pas au service de la justice, autrement dit, lorsqu'on se trouve devant un pouvoir, d'une certaine manière, qui a perdu sa légitimité, qu'est-ce qu'on fait? Alors les pères de l'Église, on sera là dans les premiers siècles de l'Église, n'hésiteront pas. À ce moment-là, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Autrement dit, c'est un texte qui, en même temps qu'il reconnaît l'importance de ceux qui exercent un pouvoir, dès lors, bien sûr, qu'il exerce, je dirais, au service du bien commun, voilà. Invite, bien sûr, chacun, et les chrétiens notamment, à faire preuve de civisme. Mais la contrepartie, vous la voyez bien, se soumettre en conscience ne veut pas dire pour autant que dans certains cas, on ne soit pas conduit ou amené à désobéir, donc à ne pas se soumettre. La question qui se posera, ce sera celle des moyens, de l'utilisation de la violence ou non, mais ça c'est une autre question. Pour l'heure, si j'avais à conclure ces deux exemples, l'argent, le pouvoir, voyez bien que sur ces deux questions, au fond, la révélation biblique, me semble-t-il, mais ce serait la même chose par rapport au travail, ce serait la même chose par rapport à la fraternité, elle a une vision extrêmement positive. Positive. Voilà. L'argent, le travail, l'amour, la liberté, le pouvoir, voilà, ont une dimension positive. Alors, s'agissant du pouvoir, je pense qu'il y a davantage une vocation au pouvoir, comme il y a une vocation à l'amour, comme il y a une vocation à la liberté. L'argent, lui, paraît davantage comme un moyen, comme un instrument. Mais ce que la Bible, en tous les cas, nous dit, et ce que le Christ ne cessera de dire, c'est que ce qui importe, c'est la manière dont on se situe. C'est la manière dont on va se situer. Et selon qu'on se situe dans une attitude qui est une attitude, quand je vais dire de pauvreté, c'est pas de misère. Mais la pauvreté, c'est pour ça que Jésus dit « Bienheureux les pauvres », c'est l'attitude de celui ou de celle qui reconnaît que tout ce qu'il a reçu, que tout ce qu'il a, d'une certaine manière, il l'a reçu, qui reconnaît le don de Dieu, qu'il se reconnaît aussi pauvre, qu'il consent à sa finitude, qu'il accueille la dignité qui est la sienne, mais comme une dignité qui le fait serviteur de ses frères. On voit bien que dès lors qu'on se situe dans ce service de Dieu, mais qui est aussi service des frères, eh bien, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, le pouvoir, l'argent, soit vécu au service du bien de chacun et de tous. Problème, il est que le péché, qui est un peu cette espèce de désir qui se caractérise quand même par une difficulté à consentir à la finitude, par un désir de toute puissance, que lorsque le péché l'emporte un peu sur le cœur de l'homme, alors grand est le risque qu'aussi bien le pouvoir que l'argent prennent dans le cœur de l'homme une place démesurée. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Grand est le risque que le travail, qui devrait être au service de l'épanouissement de la création, devienne un lieu d'exploitation. C'est pour ça que dans la Bible, on insiste sur l'importance de s'arrêter. Et il me semble que c'est d'une certaine actualité. Une société qui ne sait pas s'arrêter, qui ne permet pas à ses membres de s'arrêter. Voilà. C'est en danger par certains côtés. Et on voit dans les nombres de textes bibliques donc évoqués, il ne s'agit pas de s'arrêter pour soi, mais il s'agit de permettre à ceux dont on a la responsabilité de s'arrêter. C'est pour ça que le Shabbat est important. Et entre parenthèses, j'en profite d'ailleurs pour vous dire peut-être ce que vous devez savoir, mais si les pharisiens défendaient avec autant de hargne le Shabbat, c'était aussi pour cela. Parce qu'ils considéraient que en interdisant tout travail le jour du Shabbat, on protégeait les esclaves. On protégeait les serviteurs, les servantes et tout cela. Alors que les Sadducéens, eux, considéraient que non. Le Shabbat, c'était fait pour les prêtres, mais pas pour le peuple, quelque part. C'est ça qu'il faut entendre. Derrière la défense du Shabbat, même si Jésus prendra un peu le contre-pied, notamment par rapport à la question est-ce qu'on peut guérir ou non le jour du Shabbat, il y a une dimension sociale très forte. Autrement dit, derrière ce que nous disons, ce que nous sommes dit cet après-midi, il y a une dimension sociale forte. Il y a aussi une certaine vision de l'être humain. C'est une vision de l'être humain. Et derrière cette vision de l'être humain, il y a aussi, me semble-t-il, tout au long de la Bible, le souci de protéger. Voilà. De protéger surtout les plus faibles, les plus démunis, les plus vulnérables, ceux qui peuvent se trouver dans des situations d'extrême précarité dès lors que le mépris ou l'éloignement de Dieu conduit au mépris du frère. Merci.
Un peu moindre qu'un Dieu, Bible et conditions humaines, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Mgr Pierre de Berger, enregistrée à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte le 12 avril 2014. Mgr Pierre de Berger y présentait son ouvrage intitulé « Un peu moindre qu'un Dieu, Bible et conditions humaines », ouvrage publié aux éditions Bayard.